Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Bienvenue dans Histoire de savoir. Aujourd'hui, on va parler d'enseignement et peut-être de façon moins claire, peut-être dans ce qui est caché, puisqu'on va justement parler du curriculum caché avec vous, Séverine de Batz. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes psychopédagogue à la H2B, la Haute École Bruxelles-Brabant, dans le département pédagogique à Defray et à Nivelles, me semble-t-il.
Oui, tout à fait.
Et vous avez également réalisé le master de l'ULB, master complémentaire en études de genre.
C'est exactement, sauf que c'est un master qui est en fait co-organisé par les 6 universités francophones. Donc c'est pas uniquement l'ULB, mais en partie.
Et vous l'avez fait à l'ULB ? Non, même pas en fait.
Et c'est... on le fait, on a des cours de toutes les universités.
Ok, voilà. Mais donc, c'est ce qui vous amène ici, puisqu'il faut toujours avoir, dans Histoire de savoir, un lien avec l'ULB, on l'a. Et puis, de toute façon, la H2B, maintenant, puisque avec la RFIE, donc la réforme de la formation initiale des enseignants, qui est passée de 3 ans en 4 ans, une partie se fait à l'ULB aussi.
Exactement.
On a plein de liens. Voilà. Et donc, curriculum caché, c'est quelque chose qui n'est pas connu, puisqu'il est caché. Évidemment, quand on parle ici de curriculum, on est plus dans une idée de scolarité, d'enseignement. C'est quoi ce curriculum alors ?
Alors, il y a le curriculum scolaire qui est tout ce que l'école est censée nous apprendre, donc tout ce qui se trouve dans les programmes scolaires et dans les manuels scolaires par extension. Et puis, il y a effectivement ce qu'on appelle le curriculum caché. Et ça, c'est toute la part des apprentissages qui ne font pas partie des programmes scolaires. Mais en fait, ce sont quand même des choses qui sont transmises de la part des enseignants et enseignantes, mais pas seulement. On le verra peut-être plus tard dans l'émission, mais c'est transmis par les espaces, c'est transmis par toute une série de choses, par les règlements, par les sanctions. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on va faire passer aux élèves, souvent en n'en étant pas conscient, mais qui reste un apprentissage qui se fait à l'école.
Mais donc voilà, c'est un peu finalement répondre, faudrait que chacune des auditorices se pose la question, c'est qu'ai-je appris à l'école sans qu'on me l'ait ouvertement enseigné ? On peut dire ça ?
Oui, exactement, parce qu'on n'apprend pas que des matières à l'école. L'école, c'est un lieu de socialisation extrêmement important. Donc, en fait, on va apprendre tout ce qui concerne la relation sociale, la place qu'on se fait dans la société. L'identité aussi se forme énormément à l'école, pas seulement, mais en grande partie. C'est une micro-société, en fait, l'école. Donc, il y a tous ces enjeux sociaux qui se font. Et ça, c'est aussi un apprentissage. Donc, apprendre à l'école, ce n'est pas seulement des formules de mathématiques ou des poèmes. Voilà, il y a tout ça aussi qui se joue dans les cours et dans les classes d'école.
Oui, parce que quand on parle de socialisation, on a 4 instances de socialisation dans ce processus de socialisation. La famille et l'école prend une très grande part. Bon, il y a aussi les médias et les pères, mais donc l'école prend une très grande part. On passe énormément de temps à l'école. Est-ce que, en tant qu'enseignante, on se rend compte? Est-ce que c'est quelque chose qu'on enseigne en disant « faites gaffe, vous allez quand même, outre ce que vous allez faire passer à l'école, il y a autre chose que vous allez amener de part, peut-être aussi la façon d'être, la façon de parler ?»
Ben, c'est pour ça que ça s'appelle le curriculum caché, c'est que bien souvent c'est tout à fait inconscient. Et c'est ça qui fait que ces apprentissages et tous les stéréotypes qui peuvent y être liés sont très insidieux, en fait. Parce que c'est difficile de se rendre compte. D'abord parce qu'on est enseignante dans une école qui est la même que celle qu'on a vécue, donc on ne la remet pas forcément en question. Et même si on veut la remettre en question, il faut déjà avoir ce chemin de déconstruction, peut-être ces connaissances même théoriques, pour pouvoir les repérer et puis après faire quelque chose.
Alors, parenthèse personnelle, j'ai pu donner un cours d'ailleurs à de futurs enseignants sur la dimension de genre, et j'en parlais en fait de ce fameux curriculum caché, et parce qu'en fait ça amène aussi des biais. En fait, on donne, finalement on va amener une représentation du monde qui n'est peut-être pas la même pour tout le monde. Et donc, vous êtes plus penchée par rapport à ces dimensions de genre, justement, à ces biais de genre. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on reproduit des stéréotypes, des préjugés, des représentations qui sont dans la société, même si on n'y croit pas ? Est-ce que ça peut aller jusque-là ?
Oui, complètement. Et d'ailleurs, on estime qu'il y a 3 prescriptions en termes de genre à l'école. D'une part, la binarité de genre, qui est très, très présente, notamment à travers les espaces, d'ailleurs.
Donc, c'est soit pour les filles, soit pour les garçons.
Voilà. Il y a l'ordre du genre qui découle de cette binarité, donc la hiérarchisation qui va découler avec cette, euh, cette hiérarchisation des garçons sur les filles.
Et donc, puis par exemple, le terrain de foot qui prend plus de place que le reste.
Alors, il y a effectivement, là on est nouveau dans les espaces, il y a effectivement tout ce que la cour va impliquer en termes de messages aux petits garçons et aux petites filles, et même aux ados. Et puis, la troisième prescription de l'école, c'est l'hétérosexualité obligatoire. Donc, il faut savoir que, par exemple, la cause la plus importante de harcèlement pour les garçons, c'est de manquer de virilité.
Okay.
C'est vraiment la cause qui crée le plus de harcèlement et de moquerie et même de violence.
Alors, ces trois prescriptions, donc, passent, on l'a vu, par les espaces. Parce que c'est simple, les espaces, finalement, c'est pas si caché que ça. C'est plus flagrant, peut-être. Mais comment ça passe également ?
Donc, il y a, par rapport à la binarité de genre, il y a déjà tout ce qui est toilettes et vestiaires. Donc là, c'est vrai que pour quelqu'un, par exemple, qui serait non-binaire ou transgenre, ça peut être extrêmement compliqué, en fait, de se retrouver dans le vestiaire des filles ou dans le vestiaire des garçons. Et puis, finalement, ces espaces vestiaire des filles, vestiaire des garçons impliquent que tout le monde serait hétérosexuel, puisque l'objectif, c'est de protéger les filles des garçons et, dans une moindre mesure, protéger les garçons des ardeurs des filles. Donc, il y a quand même cette hétérosexualité obligatoire qui passe par ces espaces de vestiaire, de toilettes, etc. Alors, vous avez parlé de la cour de récréation. Il y a des tas d'études qui ont été faites, notamment par des sociologues qui ont fait des recherches avec des géologues ou des géographes, plutôt, et qui ont montré, effectivement, que dans les écoles primaires, une grande partie de la cour de récréation était dédiée au sport, particulièrement au football, que les filles souvent étaient exclues. Et donc, petit à petit, elles se mettent dans les coins, en fait, de la cour. Elles se mettent sur les côtés, alors que les garçons occupent de manière très franche l'espace central. Et donc, on est déjà en train de dire aux petites filles, tout ne vous est pas possible. Et tout l'espace, vous ne pouvez pas l'investir comme le ferait un garçon. On retrouve la même chose dans les cours de sport. Donc, par exemple, c'est une anecdote, mais... Enfin, une anecdote, non, c'est quand même important. Aujourd'hui, dans les écoles secondaires de la province, les cours de sport sont mixtes. Donc, au départ, je m'étais dit très bonne chose, etc. Ouais, puis, je suis allée voir ce qui se passait.
Ah.
Et en fait, c'est pas une bonne chose du tout, parce que comme les enseignants et enseignantes ne sont pas formés, justement, à cette dimension de genre et à tout ce que la mixité devrait impliquer, en fait, les stéréotypes sont encore plus exacerbé que quand les cours étaient non mixtes. Et donc, on voit notamment, pendant les échauffements, les garçons qui prennent énormément de place et les jeunes filles, comme dans la cour, qui se mettent sur les côtés.
Ok. Ah oui, parce que je me disais aussi que ça pouvait être justement plus... Je me souviens, les cours de gym en secondaire, les filles font de la gym, vraiment, avec youpi, on fait une roue, un poirier. Ce que j'ai jamais réussi à faire. Et à côté de ça, il y avait les garçons qui jouaient au basket, au volley. Enfin, voilà, c'était... qui faisaient de l'athlétisme. C'était quand même beaucoup plus tentant que...
C'est ça. Donc, le sport, c'est un milieu extrêmement sexiste. Hein, donc, ça, oui, il faut le savoir. Il y a notamment ce qu'on appelle dans le sport l'essentialisme mou. Alors, l'essentialisme mou, c'est le fait de dire... Tout le monde a accès au sport, les filles comme les garçons, donc voilà. Et alors on a l'impression qu'on a super fort évolué par rapport à ça.
Mais il y a un mais.
Mais les filles sont moins fortes, les filles courent moins vite, etc. Alors peut-être effectivement qu'à âge égal, à entraînement égal, une fille court moins vite qu'un garçon. Ceci dit, c'est le seul critère qui est pris en compte lorsque, par exemple, on les évalue en athlétisme ou en course. On ne prend pas en compte leur poids. On ne prend pas en compte leur hauteur, enfin leur taille, donc qu'ils aient des plus ou moins grandes jambes. Et donc, c'est un peu étonnant de dire « oui, mais c'est parce que c'est physique, mais c'est le seul critère qui est pris en compte pour faire de la différenciation physique ».
Alors, au-delà des espaces, en tant qu'enseignant, qu'enseignante, aussi, en fait, on participe à ces biais.
Oui, notamment dans les discours. Hein. On se rend compte que les enseignants et enseignantes, ça, il y a différentes études qui l'ont montré, ne s'adressent pas de la même manière aux filles et aux garçons.
C'est hallucinant, ça.
C'est hallucinant, et notamment en fonction de la discipline qu'ils enseignent enseignent. On a tendance à davantage encourager les filles dans toutes les matières littéraires ou les matières liées au care et à encourager davantage les garçons dans toutes les matières liées au STEM. Donc, STEM, c'est science, technologie, engineering, donc ingénieria, et mathématiques. On a même constaté que quand, dans des cours de STEM, on interroge un garçon, c'est en général pour lui demander de résoudre quelque chose de complexe. Et quand on interroge une fille, c'est bien souvent pour faire le rappel de ce qui a été vu la dernière fois. Comme si elle était peut-être pas capable. Voilà. Et ça, c'est très, très embêtant parce qu'en fait, on tombe dans ce qu'on appelle la menace du stéréotype. Mmh. La menace du stéréotype, c'est le fait finalement de répondre au stéréotype et donc de ne pas développer de compétences là où le stéréotype dit qu'on n'en a pas.
Il y avait d'ailleurs une étude qui avait été faite où on donne un exercice de maths, je ne sais plus exactement lequel, hein, à des filles. Et donc, au premier groupe, on leur dit, attention, enfin, on ne leur dit pas attention, on leur dit, voici un exercice de maths. Et à l'autre groupe, on leur donne identiquement le même exercice en disant, ceci est un exercice pour tester votre attention, je ne sais pas, une autre, enfin, en tout cas, une autre compétence, une autre capacité.
C'est ça, c'était du dessin.
Oui, c'est ça.
L'autre partie,
oui,
c'est
voilà.
Le dessin.
C'était du dessin, ouais. et donc c'est identiquement le même. Et dans le premier groupe, là, on a dit que c'était un exercice de maths, les filles ont moins bien réussi, tandis que dans l'autre groupe, elles ont beaucoup plus, elles ont quasi toutes réussi.
Elles ont même dépassé largement les garçons.
Oui, c'était
donc
ça.
Donc en fait, effectivement, et ça c'est vraiment l'exemple de la menace du stéréotype.
C'est
hein.
ça, mais donc c'est pour ça que je voulais en parler, ouais. C'est qu'en fait, on se conforme finalement à ce qu'on nous dit.
Exactement. C'est ça, c'est de manière inconsciente. En fait, on pourrait parler aussi, c'est un autre concept, mais de ce qu'on appelle l'impuissance apprise. Alors ça, c'est vraiment particulièrement intéressant, c'est qu'il y a une étude qui a été faite, on a donné à une classe des anagrammes à résoudre. Ce que les élèves ne savent pas, c'est que la moitié a reçu des anagrammes extrêmement simples et l'autre moitié a reçu des mots qui n'ont pas d'anagramme, donc qui sont en fait non résolubles. Et on fait ça comme ça trois fois, et c'est chaque fois les mêmes élèves qui reçoivent le mot qui n'a pas d'anagramme. Et donc, en plus, la prof, elle est dans le coup, hein, elle est dans l'étude, elle fait « Allez, dépêchez-vous, c'est facile, qui a réussi ?» Alors, tous ceux qui ont des anagrammes très simples lèvent la main, les autres les regardent en disant « Mais je suis tout à fait idiot, qu'est-ce qui se passe ?» Et puis, on donne un dernier mot qui est le même pour tous et toutes. Et là, tous ceux qui avaient eu, ou quasi tous ceux qui avaient eu les anagrammes impossible, échoue, alors que tous ceux qui avaient reçu les anagrammes faciles réussissent de manière tout à fait aisée. Et donc on voit qu'en quelques minutes, notre cerveau nous dit « je ne suis pas capable ». Donc forcément, lorsque les stéréotypes sont comme ça très ancrés et qu'ils sont constamment performés par les discours, ben, c'est beaucoup plus que 5 minutes, donc il faut se dire à quel point on intègre ça en fait.
Et c'est dangereux finalement.
Ben, c'est-à-dire que ça ne permet pas aux filles de faire ce qu'elles veulent après, et je dirais même aux garçons non plus.
Mais hein, non, c'est clair.
Parce que l'histoire de la forme géométrique à recopier, géométrie ou dessin, on a fait la même chose en lecture. Mm-hmm. Et on l'a fait une fois en disant que c'était un exercice de lecture et une fois en disant que c'était un concours à celui qui irait le plus vite. Et les résultats ont été les mêmes, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire quand il s'agit de compétition, les garçons dépassent les filles.
Mais de toute façon, dès qu'on est dans des injonctions, de toute façon, La victimologie dans les deux sens, peut-être plus dans un sens que dans l'autre, mais je veux dire, les injonctions restent pareilles pour les garçons. Et c'est ça qui est important à dire aussi aux futurs enseignants, c'est que ce que vous faites, en fait, c'est pas valoriser les garçons, c'est que vous leur mettez aussi un poids, parce qu'évidemment, tous les garçons ne sont pas doués en maths ou en sciences.
Tout à fait. À la petite différence quand même que ça permet aux garçons de se diriger vers des filières plus valorisées et plus rémunératrices.
Pourquoi ?
Parce qu'en fait, tous les stéréotypes qui tournent autour du genre amènent les filles à se diriger davantage vers les filières soit littéraires, soit du cœur. Donc, par exemple, si on prend les études scientifiques, on se rend compte que dans certains domaines, les filles sont plus nombreuses que les garçons.
Oui.
Il s'agit de la médecine et, de manière encore beaucoup plus spectaculaire, vétérinaire.
Ah oui, bah oui.
parce que c'est s'occuper de l'autre. Quand on demande à des garçons et des filles pourquoi ils se dirigent vers les sciences, les filles parlent en général de s'occuper de l'autre, mm-hmm. beaucoup plus que les garçons. Donc ça, c'est une chose qui fait que c'est injuste, parce que finalement, d'elles-mêmes, de manière inconsciente, avec tout ce qu'elles ont intégré, elles ne se dirigent pas vers les filières comme l'ingénieuriat, etc., qui sont des filières beaucoup plus valorisées et beaucoup plus rémunératrices. Mm-hmm. Et il y a aussi le fait que les filles ont tendance à se diriger vers des filières qui leur permettront de concilier leur vie professionnelle et leur vie de famille.
Et ce que les garçons ne font pas.
Ce que les garçons font
toujours
beaucoup
pas.
Moins. Beaucoup moins, oui, effectivement.
C'est pour ça que, par exemple, justement, dans l'enseignement, dans votre domaine, on remarque qu'il y a toujours plus de filles que de garçons. En fait.
Oui, et plus les enfants sont petits dans le métier qu'ils et elles visent, plus c'est flagrant. Donc, les futurs instits maternels on a à peu près pas de garçons. Il y a de temps en temps une exception. Mm-hmm. En primaire, il y en a quelques-uns, en secondaire un tout petit peu plus. Par contre, quand on arrive aux profs d'université, il n'y a plus que 11% de femmes.
Hein. Oui, c'est ça. Et par exemple, parce que ici, j'imagine que vous n'avez pas les chiffres ou vous ne les avez pas encore étudiés, mais on peut peut-être voir dans les filières, donc en enseignement plus maths, sciences, à De Frey, par exemple, est-ce qu'on voit qu'il y a plus de garçons que de filles? Parce que là, on est un peu entre les deux, on est dans l'enseignement, mais on est aussi dans une filière scientifique ou maths.
Alors effectivement, je n'ai pas les chiffres exacts, mais j'ai les étudiants et étudiantes devant moi au cours, et je dirais que c'est comme ça d'estimation à peu près moitié-moitié. Mm-hmm. Par contre, effectivement, dans les branches plus littéraires, on a quand même davantage
de filles. En langue,
il
y a plus de filles,
voilà.
ou en
français,
tout ce qui est français,
machin. Oui, tout à fait.
Donc voilà, ça reste. Mais alors, c'est se dire que ces personnes, c'est des adultes hein, qui sont en cours, qui vont devenir les enseignants de demain, sont-ils conscients de ce fameux curriculum caché ?
Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et c'est ce sur quoi portait mon mémoire dans mon master en études de genre, c'est-à-dire que j'ai interrogé des professeurs de hautes écoles pédagogiques qui donne le cours de diversité culturelle et de genre. Et en fait, ces personnes-là, et je le dis sans jugement, c'est un constat, et donc c'est pour ça qu'il faut absolument travailler sur le sujet, ne sont elles-mêmes pas formées, en fait, sur le sujet. Et donc, enseignent des choses assez, on va dire, assez bateaux, l'écart salarial, oui, ça, c'est quelque chose qui est vu. Mais quand on les interroge, ces personnes trouvent quand même que le racisme, par exemple, c'est beaucoup plus discriminant que le genre. Franchement, aujourd'hui, ça va, qu'il y a l'égalité. Alors, il y a évidemment cette confusion d'égalité de droit et d'égalité de fait, hein,
oui, ça, c'est clair.
Qui est très, très importante dans chez les personnes que j'ai interrogées. Et donc, comme c'est un cours diversité culturelle et de genre, en fait, les enseignants et enseignantes mettent davantage l'accent sur la diversité culturelle, ce qui est très important aussi, hein, c'est pas ce que je dis, mais le genre passe un peu à la trappe, en fait.
Alors qu'en fait, ils vont reporter, ils vont poursuivre, en fait, ces injonctions cachées, ce curriculum caché.
Mais ça eux-mêmes, va se en fait, dans, oui. Même dans ces cours-là, en fait, ce curriculum caché existe. Hein. Mm-hmm. Donc, même dans ce cours-là, on se rend compte que la façon dont il s'adresse aux étudiants et étudiantes, etc., il y a des différences, en fait.
Parce qu'il y avait quelque chose qui était, avec ce curriculum caché, donc il y a quand même pas mal d'études qui ont été faites, et
oui.
D'expériences, je ne sais pas si on peut parler d'expériences, hein, mais en tout cas, ou de mise en situation.
Oui, ou de recherche. Oui.
De recherche là-dessus, et que par exemple, mais c'est complètement anodin, mais c'est aussi, on va plus facilement interviewer quand un garçon lève la main, enfin tout le monde lève la main pour répondre à une question, on va se diriger en tant qu'enseignant, qu'enseignante vers les garçons.
On a une tendance, effectivement.
C'est hallucinant. Du coup, moi, je fais le contraire.
Ouais, après, ça dépend des cours. Hein, de nouveau, comme je le disais, dans les cours où on estime que les filles sont meilleures, on va avoir une tendance à les interroger un peu plus que les garçons. Donc, c'est pas de manière aussi systématique que ça. Ça dépend vraiment de la discipline. Mais bon, c'est tout aussi problématique parce que ça veut dire qu'en fonction de la discipline qu'on enseigne, on n'interroge pas les élèves de la même façon.
Parce que dans ce curriculum caché, alors je ne sais pas si ça entre en compte, mais par exemple, les règles de grammaire.
Alors là, on parle de langage, hein, effectivement.
Mais on est clairement là-dedans aussi, ou de
tout
dire que si un stade de foot rempli, tiens, je parle de stade de foot, tiens, c'est bizarre, d'un stade de foot qui est rempli de filles, il y a un garçon au milieu. On va, c'est le masculin qui l'emporte, quoi.
Oui, et d'ailleurs, là, on n'est même plus dans du curriculum caché, on est carrément dans du curriculum scolaire, parce que c'est... Quoique on peut discuter avec le masculin l'emporte, je crois que beaucoup de gens ne se rendent pas compte de l'impact cognitif que ça a sur notre interprétation du monde. Il y a des bouquins qui sont sortis là-dessus. Chaque fois qu'on dit le masculin l'emporte, même si ce n'est qu'en grammaire, le cerveau retient le masculin l'emporte.
Bien sûr.
Et on s'est rendu compte que quand on interroge des gens, par exemple, si on leur dit « Pouvez-vous citer des candidats qui pourraient être Premier ministre ?» ou « Pouvez-vous citer des candidats ou candidates ?» qui pourrait être Premier ministre, le nombre de noms de femmes qui sortent est très différent.
Okay.
Donc clairement, le cerveau ne comprend pas ce soi-disant neutre.
Ouais,
je parle
sûr.
Plutôt de masculin générique parce que le neutre n'existe pas dans la langue française.
De toute façon, si on dit neutre et qu'on utilise le masculin, il y a quand même
voilà,
un petit problème
ça, exactement.
À ce niveau-là. Même si c'est comme ça dans les autres langues ou quasi.
Je t'envoie l'ascenseur.
en fait, on a l'enseignement donc, qui fonctionne comme ça, mais finalement, c'est toute une société qui fonctionne comme ça. Alors, est-ce que finalement, c'est l'histoire de l'œuf ou de la poule ? Est-ce que c'est l'enseignement qui crée les inégalités ?
Ça, c'est toute la question. C'est que l'école fait partie de notre société et je crois que les deux s'influencent mutuellement. Forcément, la société qui est autour va influencer l'école, mais tout ce qui va se faire à l'école va participer à la construction de l'identité de ses élèves et donc influencer le monde autour.
Alors, est-ce que vous, en tant qu'enseignante, étant consciente de ce curriculum caché, est-ce que vous faites attention à vos pratiques ?
Alors, moi, oui, parce que j'ai eu la chance de faire ce master qui m'a énormément appris et qui m'a permis de me rendre compte de toute une série de choses dont je n'avais pas forcément conscience. Et donc, je crois que c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est ça, il faut former les gens, en fait. Parce que dire aux gens, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, sans qu'ils soient conscients de ce que ça implique, de tous les enjeux sociaux qu'il y a autour de cette dimension de genre, c'est compliqué.
Mais d'autant plus que comme c'est inconscient, on n'a pas la maîtrise, finalement.
C'est exactement ça. Donc la première étape, c'est la conscientisation. Mais la conscientisation, elle doit se faire à travers la formation.
Ouais.
Et donc, il faut savoir que ce fameux cours aussi de diversité culturelle et de genre dont j'ai parlé, il n'est plus dans les programmes de la RFIE. Donc les écoles peuvent, si elles le désirent, continuer à l'organiser. Et pour l'instant, beaucoup d'écoles, hautes écoles pédagogiques le font. Mais ce n'est plus du tout une obligation. Et le genre est considéré maintenant comme un concept transversal.
Ouais,
c'est-à-dire que tout le monde devrait faire du genre dans ses cours. Évidemment, le souci, c'est que c'est presque encore plus problématique qu'avant. C'est qu'avant, au moins, c'était des personnes, en général, sociologues, etc., donc qui avaient parfois, pas toujours, abordé ces notions-là dans leurs études ou en tout cas qui peuvent s'y intéresser. Aujourd'hui, demander à un prof de maths, etc., de faire du genre s'il ou elle n'y connaît rien, ça va être extrêmement compliqué. Et puis, ils n'auront pas envie.
Oui, c'est ça. Et puis c'est quand même un des enjeux de la société aujourd'hui et de la société de demain.
Évidemment, c'est un enjeu, c'est ce que je disais, il y a des tas d'enjeux sociaux autour. On se rend compte notamment que si même économiquement, en fait, on pourrait augmenter le PIB belge en investissant davantage sur le fait que les femmes se dirigent plus vers les filières du STEM. Donc il y a même un enjeu économique, en fait.
Caché.
Mais caché, on en parle très peu.
Évidemment. Alors, la formation donc, qui est importante, parce que c'est... donc, vous avez parlé de menace du stéréotype et menace apprise. On est quand même dans des termes qui sont assez violents. Comment se... En plus, là, on est deux femmes qui avons été dans l'enseignement... on a vécu cet enseignement-là. On est toutes les deux, en plus, dans des filières. Enfin, on enseigne. On est toutes les deux enseignantes. J'ai été éducatrice, donc on est vraiment dans le cœur. Comment est-ce qu'on se déconstruit ?
C'est un chemin, je pense, de longue haleine. Et je ne sais pas si un jour, on peut se déconstruire complètement parce qu'on reste le fruit d'une société. Des injonctions qui sont parfois fortes et contre lesquelles on n'a pas forcément le courage d'aller, et je peux le comprendre. Après, de nouveau, je vais reparler de formation, mais pour moi, se renseigner, alors on n'est pas obligé de faire le master, même si je le conseille vraiment parce qu'il est particulièrement intéressant et qui permet quand même un premier pas vers cette déconstruction, mais on peut aussi le faire de manière autodidacte. Mais c'est vrai que se renseigner là-dessus, se rendre compte de tout ce que ça implique par les lectures, par peut-être des discussions, des podcasts, que sais-je, c'est un premier pas. Voilà, surtout aujourd'hui où les médias ne cessent de brandir la menace wokiste qui va mettre à terre toute notre société. Ça n'existe pas, évidemment, et de toute façon, si on ne sait pas définir woke, ça veut dire qu'on l'est, hein, on dit. donc je crois que cette déconstruction, d'abord, elle prend du temps, puis il faut aussi accepter, je crois que c'est important, hein, de pouvoir accepter qu'on ne se déconstruit pas jamais totalement et que parfois on répond à des injonctions.
Oui, bien sûr. Voilà. Un bête exemple, j'enseigne aussi à Defray. J'avais en face de moi une classe de futurs régents, on dit plus ça, je sais, hein, mais de futurs régents en sciences et maths. Et il y avait sciences, maths et sciences humaines.
Mm-hmm.
Et en fait, dans ma tête, les filles étaient en sciences humaines et les garçons étaient en sciences maths.
Voilà.
Et je m'en suis voulu.
Oui, alors je crois qu'il faut pas s'en vouloir. Je crois que c'est intéressant à un moment.
Je me dis merde.
Oui, mais ce qui est intéressant, si on veut se déconstruire, c'est de dire je prends ça comme expérience de tout ce que la société a comme impact sur moi en fait. Et de voilà, on est comme je disais, on est le produit de notre société. On ne sait pas complètement s'en défaire. Et c'est comme ça. Mais oui, ça arrive ce genre de truc.
Mais alors, je me dis voilà, moi étant consciente de ce fonctionnement-là, étant aussi dans cette phase de déconstruction, enfin j'imagine que je suis oui, enfin voilà, j'ai envie de me dire que je le suis plutôt, je suis bien avancée là-dedans. Mais n'empêche, j'ai encore saisi ces réflexes-là. Et donc, quand vous dites qu'il n'y a pas de formation là-dessus, ben, je pense qu'en fait, c'est vraiment un problème qui doit être soulevé, en fait.
C'est un problème qui doit être soulevé. Et je disais, avec la réforme de la formation, ça ne va pas, pour moi, vraiment dans le bon sens, même si je comprends que l'intention est bonne de dire, en fait, tout le monde va faire du genre.
Oui, mais bon, si on n'est pas formé à ça,
voilà,
comment...
Voilà, c'est vraiment le problème. Alors, heureusement qu'il y a maintenant, aujourd'hui, ce type de master dont on a parlé tout à l'heure, qui existe, qui a de plus en plus de succès d'année en année. Donc ça, c'est vraiment chouette. Je pense qu'aujourd'hui, dans les études de sociaux, la dimension de genre est quand même abordée par rapport à il y a 20 ou 30 ans où ça n'était pas du tout le cas. Donc voilà, mais c'est vrai que ce curriculum caché, il y a tellement de choses qui interviennent en fait. Et dont on ne se doute pas du tout. Hein. Je parlais tout à l'heure des sanctions. Il y a un livre de Sylvie Héral qui s'appelle « Genre et sanctions au collège » où en fait elle explique que les garçons sont plus punis pour leur fait de comportement, on va dire, et qu'ils sont considérés d'office comme plus perturbateurs, donc ils sont plus punis. Les filles seraient considérées plutôt comme bavardes, hein, presque par nature, hein, donc de nouveau, on est dans l'essentialisme. Et en fait, ce que Sylvie Héral dit, c'est que ça a l'effet contraire de ce que ça prétend combattre, et finalement, ces sanctions deviennent presque des médailles de virilité pour les garçons, et ça conforme constamment le fait, c'est normal que t'es puni, t'es un garçon, donc tu es plus perturbateur, t'as besoin de bouger...
Mais la sanction sera plus forte et c'est une fille qui a le même comportement.
Voilà. En tout cas, ils seront plus souvent punis, plus vite punis.
Oui, voilà. Mais les filles qui ont ce comportement-là, des comportements, entre guillemets, évidemment, de garçons qui sont sanctionnés, là, ça va être directement problématique aussi.
Ça va être problématique et on va
mettre un problème, on va dire... Elle est TDAH ou je ne sais pas.
Ou alors elle est vraiment très, très, très mal éduquée. Parce
oui,
que dans la bouche d'une fille, ces gros mots, là, c'est vraiment abominable. Voilà, je l'ai vu, hein, des profs qui disent aux filles, dis donc des si vilains mots dans la bouche d'une si jolie fille, c'est avec cette vilaine bouche que tu vas embrasser les garçons. Ouh. Clac, stéréotype de genre, hétéronormativité, hétérosexualité obligatoire, donc hétéronormativité. Tout en une phrase.
C'est compliqué, hein, parce que moi, par exemple, j'ai appris quand j'étais petite, quand on est une femme, on ne fume pas en rue, par exemple.
Oui, c'est ça. Alors aujourd'hui, je crois que c'est peut-être
non,
moins...
Non, ça va, ça marche, mais...
moins fort.
Mais voilà, ce sont des exemples.
Il y a toute une série de comportements qui sont associés, soit aux garçons, soit aux filles. Or, tout est construit, hein, même notre manière de marcher, en fait, hein, on le sait, hein, la façon dont on se déplace. Si on marche... entre guillemets, on est à la radio, donc vous ne voyez pas mes guillemets avec les doigts, mais j'en mets des énormes. Si on marche comme un garçon ou comme une fille, tout ça est évidemment tout à fait construit par la société. Hein.
Ce qui est marrant, c'est qu'on est dans une société qui semble pour l'instant se déconstruire. Enfin, ce n'est pas la société qui se déconstruit, mais on impose une déconstruction. Je ne dis pas que c'est péjoratif. Hein. Mais donc, justement, par des visibilités, les visibilités, par exemple, LGBT, l'acquisition de droits, où on fait attention maintenant à plus d'égalité hommes-femmes. On le voit aussi avec hashtag MeToo, on l'a vu avec le procès Mazan également. Donc, les choses sont plus posées sur la table. Ça complique les choses où ça les facilite, ou alors là, on se rend compte que finalement, on est vraiment dans l'enseignement, on éduque les enfants d'une certaine façon, et donc par cette hétéronormativité, par le fait qu'un garçon, c'est scientifique, une fille, c'est plus dans le cœur. Enfin voilà, tout est chamboulé finalement.
Oui, et je pense que c'est ce qui met très très en colère toute une partie de la population. C'est justement cette visibilité tout à coup de quelque chose qui pourrait paraître, quand on n'est pas du tout déconstruit, anormal. De nouveau, je mets des guillemets, évidemment, et je parle pour ces personnes-là. Alors qu'en fait, si on regarde historiquement, cette binarité de genre, en fait, elle est loin d'avoir toujours existé. Si on prend l'exemple des Inuits, par exemple, eh bien, quand une femme Inuit était enceinte, avant même qu'elle n'accouche, on lui donnait le prénom d'un ou d'une ancêtre. Et l'enfant avait le genre de l'ancêtre au moment où il ou elle naissait. Y a des tas de cultures où il y avait trois genres ou cinq genres,
oui, bien sûr,
en fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous paraît aujourd'hui naturel, mais qui ne l'a pas du tout toujours été, en fait. Donc ça remet en question des choses qu'on a acquises et qui sont, et je peux l'entendre, parfois difficile à remettre en question, parce qu'on n'a jamais connu rien d'autre.
Ouais.
Et donc, c'est vrai que tout à coup, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Ça me perturbe. Mes repères sont perturbés, et donc, ce n'est pas confortable, en fait.
Mm-hmm. Mais même au niveau des jeunes et des étudiants, hein, ça les perturbe. Quand on a ces discussions sur le genre, justement, on sent qu'il y a certaines thématiques qui sont difficiles, en fait.
Évidemment. Tout ce qui remet en question nos habitudes, qui sont finalement très confortables parce qu'on n'a pas dû les remettre en question, etc. Et tout à coup, on dit autre chose, c'est perturbant. Je pense qu'en tant qu'enseignant, on doit aussi pouvoir accepter ça et avoir beaucoup de patience et se dire, voilà, ce sont des fruits de la société, c'est pas qu'ils sont contre le truc par nature, ou d'où, voilà. C'est qu'il faut travailler avec eux et que ça va pas se faire toujours... ça dépend comment ils arrivent à la haute école ou même dans les écoles secondaires, mais ça ne va pas se faire en un jour et il faut que les choses se fassent petit à petit.
En dehors de la formation, soi-même, on peut se conscientiser à ce curriculum caché et à éviter de reproduire, parce que finalement, ce n'est pas que dans l'enseignement, hein, ça passe aussi dans l'éducation des enfants à la maison, enfin, je veux dire, on n'est pas que dans l'école, enfin, un curriculum caché. Mine de rien, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit, on peut faire passer des représentations, des stéréotypes et des préjugés.
Tout le temps. Et effectivement, dans l'éducation des enfants, quasiment toutes les familles, pour ne pas dire toutes, vont reproduire une partie au moins des stéréotypes liés au genre.
Après, dans les jouets, rien que l'idée des jouets, en fait. Hein.
Rien que l'idée des jouets, des tenues vestimentaires aussi, parce que ça fait aussi partie du curriculum caché, on ne l'a pas dit, mais tous les règlements autour des tenues.
Oui, parce que dans les écoles, c'est pas les mêmes règlements.
Alors si, mais c'est des règlements extrêmement flous. Donc les règlements disent, pour la plupart, j'ai pas été voir tous les règlements de toutes les écoles, mais dans la plupart des écoles, on dit qu'il faut une tenue correcte et appropriée.
Oui,
en général, c'est le ou la chef d'établissement qui peut décider si la tenue est correcte et appropriée. Sauf que dans les faits, ça touche en fait particulièrement les filles, ce n'est pas noté comme ça.
Ah, parce que là, c'était, on ne peut pas voir le nombril. Oui, mais on dit ça pour les filles et les garçons, mais on sait très bien que ça concerne
exactement,
les filles.
Exactement, c'est-à-dire que
donc
dans
pas
les faits,
bretelles,
ça... Voilà,
pas de...
exactement. On peut pas
et alors, c'était très marrant,
jeu.
C'était dans l'école de mon fils, à partir de la troisième secondaire, les garçons ne pouvaient plus porter de shorts.
Voilà, c'est de coup, temps en temps, il y a aussi...
Ils sont venus en jupe.
Ah ben, ils ont bien raison.
Et le règlement a été changé.
Ils ont bien raison de se rebeller.
Mais c'était étrange,
ouais.
Parce que là, pour une fois, c'était dans l'autre sens. Mais donc, même à ce niveau-là, mais on entend encore aujourd'hui, hein, de toute façon, tu ne vas pas t'habiller comme ça, il va t'arriver des soucis.
Tout le temps, ça n'a pas du tout évolué dans les écoles secondaires, hein, absolument pas. Et même, parfois, j'ai l'impression qu'il y a des régressions. Après, c'est une impression, hein, donc c'est pas scientifique, mais vraiment, on ne peut pas, les filles peuvent... On ne peut pas, mais donc, dans les faits, les filles, avoir de fines bretelles, enfin, de manches, comment est-ce qu'on dit, genre top, là. Hein,
ouais.
Effectivement, tout ce qui est crop top, etc. Alors même que, dans des cours de récréation, quand il y a un match de foot pour un cours de sport, on met là une moitié de garçons torse nu pour identifier les équipes.
Ouais.
Et là, ça ne pose aucun problème. Par contre, voir quelques centimètres du ventre d'une fille... C'est problématique. Et ça nous renvoie de nouveau à cette hétérosexualité parce que des chefs d'établissement nous disent, mais vraiment, hein, sans aucune honte, ça va perturber l'apprentissage des garçons.
Ah oui, mais c'est
ah
ça.
Oui.
Hein. Ah ben oui, elles vont provoquer les garçons.
Voilà.
Un truc, ça reste...
Alors que nous, c'est bien connu, nous n'avons aucune attirance sexuelle pour qui que ce soit. Voilà. Donc...
Et on reste évidemment dans cette idée de hétéronormé parce que à la limite au niveau garçon-fille on peut commencer à se dire que ça bouge au niveau hétéronormatif. On reste dans une société hétéronormative.
Exactement, ça c'est à l'école c'est très très fort et là même si on regarde il y a une évolution qui se fait en termes de rôles stéréotypés dans les manuels scolaires par exemple. Donc effectivement ça évolue. Par contre l'homosexualité est toujours présentée sous l'angle de la victimisation ou sous l'angle l'angle des maladies ou des choses comme ça. Et alors, la transidentité, n'en parlons même pas, ça n'apparaît pas,
ça n'existe pas non plus.
Et ça n'existe pas non plus.
Donc voilà, il y a encore du boulot en fait dans les écoles. Est-ce qu'il y a justement, parce qu'on parle de plus en plus hein, de cette visibilité, je dis LGBT, hein, mais est-ce qu'il y a une formation, est-ce qu'on éduque les futurs enseignants là-dessus? Parce que, par exemple, de cette non-binarité, il faut en parler, cette transidentité, il y a de plus en plus de cas et de revendications à ce niveau-là qui sont tout à fait légitimes. Mais voilà, où est-ce qu'on en est
donc,
là?
Non.
Non, ok, merci.
Et en fait, les résultats de mon mémoire, quand je suis allée interroger les personnes qui, pourtant, je le rappelle, donnent le cours de diversité culturelle et de genre, c'est abordé nulle part.
Ok.
Donc, effectivement, là, on reste dans quelque chose, comme je disais tout à l'heure, hyper bateau, quoi. C'est vraiment, oui, l'écart salarial,
ouais.
Mais ça s'arrête quasi là, en fait.
Il y a du boulot, alors?
Effectivement, il y a du boulot.
Alors, dans la société en général, dans l'enseignement peut-être en particulier, alors je dis ça parce que voilà, c'est peut-être l'endroit où les choses peuvent bouger. Séverine de Batz, merci beaucoup d'être
avec
venue
grand plaisir
dans cette émission. Et je vous réinviterai peut-être bien pour une prochaine émission sur d'autres sujets touchant
plaisir.
L'enseignement et le genre. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.
Merci.